ignora superbement. Elle comptait passer une bonne soirée, et ce, dès à présent. Elle remettait sa frange brune en place. Sa coupe de cheveux au carré, la même depuis des décennies, lui donnait un petit air espiègle, surtout avec son nez retroussé et ses yeux ronds. Avec les années, elle ressemblait de plus en plus à cette actrice américaine, Sally Field, qui avait tenu le rôle de la mère de famille dans Madame Doubtfire. D'une main assurée, elle appliqua au gros pinceau un peu de blush rose, puis redessina ses lèvres qu'elle trouvait trop fines. Une moitié de bouche faite, elle se tourna vers son mari.
« Je suis inquiète quand même. Il n'est vraiment pas facile, notre Nicolas.
Il a toujours eu un caractère de cochon. Je ne sais pas de qui il peut tenir ça », poursuivit-elle en regardant Jacques du coin de l'œil. « Peut-être qu'il aurait dû attendre encore un peu avant de nous la présenter. » Avoir à supporter le fils et le père en même temps, ça va lui faire un choc à Jeanne.
Tu m'écoutes? Arrête de stresser pour ton chevreuil. Si tu cesses d'ouvrir le four toutes les 10 minutes, il sera fondant comme tu l'aimes. Zippe-moi plutôt.
J'aime quand tu me parles comme cela, plaisanta Jacques en remontant la fermeture éclair de la robe. Tu es très belle ce soir, dit-il en entraînant sa femme dans une valse improvisée.
Vraiment?
J'ai l'impression que tout dégringole et qu'on ne voit que mon ventre, rétorqua Martine en s'arrêtant pour s'observer à nouveau dans le miroir.
Jacques prit son épouse par la main et la détailla des pieds à la tête.
Elle était petite, menue, et avait gardé un corps ferme que beaucoup de femmes de plus de 60 ans lui enviaient.
N'importe quoi, chérie. Tu es magnifique. Il n'y a que toi pour te trouver des défauts.
Et tu sens si bon,
ajouta Jacques en enfouissant son nez dans sa nuque.
« Ce sont des collants ou des bas ? »
interrogea-t-il en lui caressant la cuisse.
« Oh, pas maintenant.
J'aimerais bien, mais on va être en retard. Ils débarquent dans moins d'une heure et on n'est pas prêts. Il faut encore cacher les cadeaux des petits-enfants avant qu'ils n'arrivent. J'ai hâte de les voir. Ils ont sûrement encore grandi.
J'ai envie de t'enlever cette robe, insista Jacques en embrassant le cou de sa compagne langoureusement, jusqu'à la faire glousser comme une gamine.
Et moi, j'ai envie que tu sois irréprochable avec tes fils, que tu fasses la conversation aimablement à tes belles-filles et que tu ne restes pas accroché à ton portable, ok ?
Dit-elle de son air le plus inflexible.
Et si c'est le cas, ce soir, après le dîner ?
Prenons déjà un petit apéritif,
proposa Jacques avec son sourire le plus charmeur. Le couple s'éclipsa dans la chambre, d'où retentirent des rires, des bruits de chaussures jetées au sol et des « attention à mes cheveux ». Le temps se suspendit jusqu'à ce que la sonnette de la porte tinte.
« Déjà ? Mais ils sont en avance !»
s'exclama Martine en voyant 20h10 au radio-réveil.
« Mère ?»
« Fais attention aux gros mots. Avec les petits qui font la police, ça va encore nous coûter 30 € la soirée.
Dehors ou dedans la chemise ?»
Dehors, sinon cette boudine.
T'as vu ma chaussure gauche? Elle est où?
Ça me boudine. Mais t'es sympa, toi.
Martine et Jacques dévalèrent les escaliers jusqu'à la porte d'entrée. Recoiffés, défroissés et les joues rouges, ils prirent une grande inspiration et firent un dernier point d'équipe.
Bon, on récapitule. Ce soir, pas de remarques désagréables à tes belles-filles, pas de portable et tu fais attention à ton cholestérol. Tu ne te sers pas deux fois, entendu ?
Ok, patronne,
acquiesça Jacques en embrassant sa femme sur la bouche.
Et c'est parti, advienne que pourra.
Chapitre 2. Les chiens ne font pas des chats. Derrière la porte, une seule petite silhouette, toute fluette, Antoinette.
Maman ? Mais qu'est-ce que tu fais déjà là ?
Demanda Jacques.
On n'avait pas dit 21h ? Attends, donne-moi ton manteau.
Cachée sous son chapeau qu'elle réservait aux grandes occasions, la vieille dame semblait nager dans son manteau d'hiver. À ses pieds, deux énormes sacs remplis de paquets emballés avec soin.
Débarrasse-moi plutôt des cadeaux des petits. Ils sont de plus en plus lourds, les jouets de nos jours.
Mais tu es resplendissante, Martine !
Ajouta la nonagénaire en embrassant sa belle-fille.
« Le jaune te va très bien. »«
C'est très aimable, Antoinette. Comment allez-vous ? demanda Martine en prenant le manteau de la vieille dame.
« Ne parlons pas des choses qui fâchent, veux-tu ? C'est une nouvelle robe que tu portes là ?»«
Effectivement, elle est neuve. Merci d'avoir remarqué, Antoinette. » répondit Martine en jetant un coup d'œil réprobateur à son mari.
« Je me permets d'entrer, sinon on va tous attraper la mort à rester dans les courants d'air, »
fit remarquer la vieille dame. Antoinette avança dans la grande maison familiale, où son fils Jacques habitait depuis plus de 35 ans avec sa femme, et où leurs trois garçons avaient vécu une enfance heureuse avant de quitter le nid familial quelques années plus tôt. La vieille dame résidait depuis toujours à Dinan, sur la côte nord de la Bretagne, et avait été ravie que son fils décide de venir habiter tout près de la maison qu'elle occupait désormais seule depuis plus de 10 ans. C'était une très grande et belle bâtisse bourgeoise du début du XXe siècle, dont Jacques, ingénieur de chantier, avait dirigé la rénovation. Sur 3 niveaux, la maison avait l'allure typique de la Bretagne Nord, avec ses pierres de pays, ses petits volets blancs et son jardin verdoyant, au fond duquel Jacques avait installé un potager où chaque plant qui grandissait le rendait très fier. 4 chambres et un petit bureau avaient été aménagés aux étages supérieurs pour accueillir avec aisance une famille nombreuse. Au rez-de-chaussée, un grand salon avec cheminée et une cuisine tout équipée. L'unique petite salle de bain avait longtemps été le théâtre de batailles d'eau dans la baignoire et de coups de coude au-dessus de l'évier. Cette maison avait bien vécu. Malgré l'absence d'enfants désormais, elle avait gardé son âme, avec ses odeurs de parquet ciré et de feu de bois, avec ses murs quelque peu défraîchis et habillés de photos de famille, traces nostalgiques de cette vie passée. On y voyait de très jeunes enfants que l'on retrouvait plus âgés sur d'autres. Avec son sourire parfait, on pouvait deviner que l'aîné, Mathieu, avait été un bon élève, un gentil garçon obéissant. Le cadet, Alexandre, semblait être le farceur, toujours à faire le guignol avec des grimaces improbables qui auraient pu gâcher la photo parfaite si Nicolas, le petit dernier, n'affichait constamment un air boudeur, les bras croisés en signe de terrible colère. Les 3 fils, malgré leur caractère si différent, avaient toujours été soudés, et ce n'était pas par hasard si aujourd'hui ils habitaient tous en région parisienne. Ils avaient besoin de pouvoir se voir régulièrement. L'odeur alléchante qui emplissait la maison réveilla l'estomac d'Antoinette.
« Allons dans la cuisine, Martine. Je vais te donner un coup de main. Jacques, rends-toi utile, veux-tu ? Et jette les bouteilles en verre que j'ai apportées qui sont restées dans mon coffre. Je ne sais pas pour quelle obscure raison les ramasseurs du verre ne sont pas passés chez moi cette semaine. Je vais aller à la mairie après-demain pour leur remonter les bretelles. C'est pas la première fois qu'ils me font ce genre d'entourloupe. »
En entrant dans la cuisine, elle se précipita sur le four pour vérifier la cuisson du chevreuil. Elle ne fit aucune remarque, ce qui signifiait que la bête rôtissait comme elle l'avait enseigné à son fils. Martine installa sa belle-mère à la table de la cuisine avec un petit verre de sauterne, tandis que, comme chaque année, elle préparait des toasts au foie gras.
« Profitons de l'absence de Jacques. Comment va-t-il ? »
demanda la vieille dame, inquiète, en attaquant son verre de liquoreux. Martine reposa le pain aux figues qu'elle était en train de trancher et se pencha vers sa belle-mère pour répondre à voix basse.
« Eh bien, si vous lui demandez, il vous dira que tout va très bien, qu'il est débordé, que les gars du chantier passent leur temps à le solliciter. En réalité, ses patrons l'ont mis en retraite anticipée et ils ont choisi un petit jeune, un ingénieur à peine sorti de l'école pour le remplacer. Il n'a quasiment plus rien à faire. »
« Placardisé à 62 ans ? Le pauvre ! Il ne nous fait pas un burnout au moins !»
s'exclama Antoinette.
Martine vérifia par la fenêtre que Jacques était encore loin et reprit ses préparatifs.
Un burn-out ? Je ne sais pas.
Mais en tout cas, il ne dort pas bien et reste accroché à son portable en espérant que ses collègues l'appellent pour lui dire qu'ils ont besoin de lui.
Il a maigri, non ?
Oui, 5 kilos.
Que veux-tu ?
Compatit Antoinette.
Et toi ? Comment te sens-tu ? Tu fais bien attention à te ménager. Et attention.
Si la santé de Martine avait toujours été fragile, depuis quelques années, elle devait faire encore plus attention à ne pas se surmener. Elle perdait fréquemment connaissance et s'était fêlée 2 côtes quelques mois plus tôt en s'effondrant à la caisse de la librairie où elle travaillait, à la suite d'un malaise.
si toute la famille avait pris l'habitude de taquiner Jacques avec...